Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Martine Lego. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro, voilà, pour que les auditeurs vous entendent bien.
Ok, bonjour.
Bonjour à vous. Vous faites partie de l'association des Amis de Valcroissant. Et nous allons passer un petit temps aujourd'hui pour évoquer un petit peu la vie associative de cette association, son activité cet été autour de la musique, puis parler un petit peu de cette abbaye.
Oui, tout à fait. Donc l'abbaye de Valcroissant, c'est une abbaye cistercienne qui a été construite en 1180 par les moines de Bonnevaux. Donc cette abbaye est typiquement cistercienne. Ensuite, elle a eu beaucoup de ravages au moment des guerres de religion, puisque le Diois est un pays, une terre de protestantisme. Donc c'est à cette époque, en 1568, que les voûtes de l'église, les voûtes du dortoir sont tombées. Ensuite, l'abbaye a été...
Pardonnez-moi peut-être pour les auditeurs qui sont, ou alors comme moi, qui suis complètement cistercien, c'est plutôt une branche catholique, c'est ça?
Cisterciens, c'est une réaction aux bénédictins. Au Moyen-Âge, c'était les abbayes bénédictines, comme Cluny par exemple. Mais ces abbayes s'étaient un peu éloignées de la règle de Saint-Benoît qui était austérité, pauvreté, basée sur l'austérité et la pauvreté. Voilà. Donc les bénédictins s'étaient un peu éloignés de cette ligne de conduite. Et c'est pour revenir à plus d'authenticité par rapport à cette règle qu'un certain moine, bénédictin d'ailleurs, Robert de Molène, a fondé l'abbaye de Citeaux. Citeaux, ça vient du mot cistel, qui veut dire jonc. Pour vraiment montrer sa réaction à l'ordre clunisien, il a fondé cette abbaye dans un endroit très austère, très inhospitalier. Citeaux, jonc, endroit les marécages, voilà.
L'abbaye de Valcroissant n'est pas vraiment dans un lieu austère et inhospitalier, elle, par contre.
Alors, après, quand une abbaye avait trop de moines, 12 moines, en souvenir des 12 apôtres, quittaient le monastère pour fonder une autre abbaye. On disait qu'on fondait une abbaye fille. Voilà. Donc, Citeaux a fondé plusieurs abbayes filles, dont Bonnevaux. Et Bonnevaux, à son tour, a fondé des abbayes filles, dont la dernière, l'abbaye de Valcroissant. Donc, nous sommes une fille de Bonnevaux ou petite fille de Citeaux.
Les moines SM comme les abeilles.
Comme les abeilles, tout à fait. Mais les abbayes cisterciennes sont toujours placées dans des endroits à l'écart des villes, ce qui explique un petit peu la situation de l'abbaye de Valcroissant.
Un petit peu isolé, mais quand même, ce que je notais, quand même dans un lieu plutôt chouette, c'est pas forcément inhospitalier.
Tout à fait, mais là on est déjà un petit peu plus tard dans l'époque, voilà, puisque l'abbaye de Valcroissant a été construite en 1180. Mais pour construire une abbaye, il fallait trois choses, de la pierre, au pied du Glandas nous avons la pierre, de l'eau, nous avons le ruisseau de Valcroissant, et des forêts, du bois.
Quelle activité était pratiquée justement dans cette abbaye ?
L'abbaye de Valcroissant a toujours été une abbaye pauvre. Leurs revenus, c'était les revenus du bois et ils avaient certainement un élevage de moutons.
Pour essayer de se rapprocher un peu plus de notre période, à quel moment ces moines arrêtent de vivre dans l'abbaye de Valcroissant et que devient-elle ? Vous aviez évoqué aussi la chute des voûtes, ce genre de choses.
Alors, au moment des guerres de religion, l'abbaye Notre-Dame de Valcroissant a été détruite. Donc, toutes les voûtes de l'église sont tombées, ainsi que celles du dortoir. Il restait très peu de moines. Et donc, le dernier abbé de Valcroissant, qui était à l'époque en place, a transformé les voûtes, transformé l'église en étable et grange au-dessus. Donc, il a fait reconstruire une voûte. Voilà. Et donc, les bâtiments conventuels de l'abbaye sont devenus des bâtiments qui ont servi à l'activité agricole. Et ceci jusqu'au moment de la Révolution, puisqu'ensuite, l'abbaye a été vendue comme biens nationaux en 1791.
Vous, vous faites partie de la famille Lego qui a eu, à un moment donné, la possibilité de s'installer sur cet espace, si je ne me trompe pas.
Alors, après, en 1791, l'abbaye a été vendue. Ce sont des habitants de Die qui l'ont achetée. Et ensuite, elle a toujours eu comme propriétaire des habitants de la région. Voilà. Mais quand la famille Lego s'est installée, c'est en 1951, l'abbaye était en vente. Les propriétaires de l'abbaye ne voulaient pas conserver ce bâtiment qui était quand même une charge assez lourde. Voilà. Et donc la famille Lego a acheté cette abbaye avec une autre famille, la famille Tissot. Et donc c'était surtout la famille Tissot qui exploitait le domaine. Mais en 1968, c'est mon mari qui a repris entièrement l'activité agricole.
Voilà, alors c'était bien pour récupérer cette activité agricole, donc exploitation du domaine et puis de l'élevage.
Voilà, c'est toujours une exploitation agricole en activité pour le moment, avec un élevage de moutons.
Un élevage de moutons, vous l'avez dit, dans une architecture qui a une sacrée histoire, ça doit demander aussi un autre entretien qu'une grange, qu'une simple grange, je veux dire.
Alors, c'est pour cela que nous avons fait appel à André Pitt, qui à l'époque travaillait au Greta de Die, voilà. Donc, il est venu nous aider avec le Greta pour faire le gîte d'étape. Puisque vous savez que comme nous sommes au pied du clan d'As, nous avions énormément de randonneurs. Et pour loger ces randonneurs, il fallait quelque chose. Donc, nous avons fait un gîte. Et c'est grâce à André Pitt que nous avons créé le gîte d'étape. Refait exactement le gîte d'étape. Puisqu'il existait à l'origine un refuge qu'on appelait le refuge des alpinistes. Puisque toutes les voies du clan d'As, que vous avez dans le clan d'As, ont été ouvertes par les grands alpinistes comme Dominique le Prince Ringuet, Frézafond, etc. Voilà.
Et c'est cette activité qui aujourd'hui vous permet d'entretenir l'ensemble du bâtiment ?
Oui, il y a cette activité qui nous permet de vivre déjà. Mais avec André Pitt, nous avons créé l'Association des Amis de Valcroissant.
On
Donc
y vient.
En 1990, voilà, on y vient. Donc c'est à l'initiative d'André Pitt et aussi de Serge Durand qui a beaucoup travaillé sur l'architecture de Valcroissant.
Alors pour terminer sur cette architecture, aujourd'hui le bâtiment est classé peut-être ?
Alors le bâtiment est classé monument historique depuis 1971. Voilà, c'est Marcel Lego qui a fait classer monument historique.
L'Association des Amis de Valcroissant, vous rappeliez sa fondation, quel a été son objet ?
Elle a deux objets exactement, c'est aide à la réhabilitation des parties anciennes et aide à l'animation culturelle.
C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de parties qui ne sont pas visitables ou qui sont à restaurer ?
Bon, dans un tel bâtiment, il y a toujours à faire, de toute manière. Voilà. Mais grâce à cette association, nous avons fait énormément de choses, entre autres le réfectoire des moines, qui est aujourd'hui utilisé comme salle de spectacle, de concert. Voilà.
Et l'animation culturelle, alors là, je pense que les gens ont quand même déjà dû, au moins voir qu'il y avait une activité culturelle à Valcroissant, à l'abbaye, souvent des concerts. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite historique aussi là de ce qui a pu se passer déjà dans l'abbaye ?
Nous avons accueilli beaucoup de concerts, l'année dernière 7, je crois, oui, c'est 7 ou 8. Et cette année, nous en avons 8. Voilà. Donc, deux sortes de concerts. Soit ce sont des personnes qui viennent et qui organisent eux-mêmes leurs concerts, comme par exemple Die Cantate, dimanche dernier. Voilà. Ou soit c'est l'Association des Amis de Valcroissant qui prend en charge le concert, qui organise le concert.
Un particulier ou une association indépendante pourrait venir vous proposer
Oui, bien sûr. Donc, dans ces conditions, l'association loue le réfectoire. Voilà. Il y a deux prix. Soit c'est 150 euros pour un concert ou 200 euros si nous faisons paraître le concert dans ce qu'on appelle le flyers, c'est-à-dire un petit fascicule comme ça.
Le programme
de l'année, de la saison.
Faites-nous le détail de ce programme estival, s'il vous plaît.
Nous avons déjà eu 3 concerts. Un dans le cadre de Exil et Tolérance, sur le pas des Huguenots, c'était le 8 avril. Puis ensuite, nous avons eu l'écho avec Diwa Jumelage, que nous avons organisé avec Diwa Jumelage, donc une chorale italienne. Puis dimanche dernier, le 8 juillet, c'était 10 cantates qui chantaient Mozart, Thomson et Rossini. Rossini et Thomson plutôt, si on les donne dans l'ordre. Et puis là, nous avons un concert de musique baroque le 17 juillet à 18h30, puisque tous nos concerts ont lieu à 18h30 en principe. Mmh. Sauf les deux derniers en fin de saison qui ont lieu à 18h, puisque les jours sont déjà plus courts. Voilà. Donc ce concert de musique baroque est avec Aude Van Acker, que tout le monde connaît, puisque oui. Aude Van Acker est d'origine d'Oise. C'est un très beau concert de musique baroque avec Monique Zanetti, qui est une spécialiste soprano du répertoire baroque, Christine Plubeau, viol de gambe, et Eugène Ferré pour le luth, puisque ce sont un concert avec des instruments baroques. C'est-à-dire viol de gambe et luth.
C'est-à-dire voilà. Ancien et que,
ancien,
que voilà. Peu de gens savent encore voilà. Manier.
Manier et qu'on a, nous n'avons pas l'habitude d'entendre beaucoup finalement. Mmh.
Ça, alors, c'était donc le 17
donc
juillet.
Ça, c'est le 17 juillet. Ensuite, le 22 juillet, toujours à 18h30. Alors là, c'est Viva Brasil, un ensemble Bacchanas, voilà, qui a été créé en 2007. Avec Aude Van Acker, toujours, et son compagnon Fernando Lima de Albuquerque, qui est aussi violoncelliste et qui est originaire du Brésil.
C'est de la musique classique brésilienne ou...
Voilà, de la musique classique brésilienne, ou brésilienne déguisée en classique.
Je pense que c'est assez inédit.
C'est inédit. Le 22 juillet à 18h30. C'est un dimanche, pour que les commerçants puissent venir. Pour le mois de juillet, ce n'est pas encore terminé. Le 26 juillet, nous avons à 18h30, alors quelque chose de très différent, ce sont des danses indiennes.
Oui, parce que j'allais dire, souvent on s'attendrait, et enfin du moins si on regarde un petit peu en arrière, il y a eu beaucoup de musique classique, de musique baroque, de musiques anciennes proposées dans l'abbaye. Mais alors là, on voit déjà une fusion brésilienne inédite, hein, on en parlait, et puis de la danse, vous diversifiez aussi pas mal la programmation.
Oui, cette année, on a fait un effort pour élargir le programme. Mais malgré tout, ça reste le classique. Par exemple, la danse, c'est un spectacle de danse classique sacrée quand même, du sud de l'Inde.
Oui, mais enfin, voilà, on a voyagé, on n'est voilà. pas
oui,
dans
oui,
le baroque occidental.
On n'est plus du tout, voilà. D'accord. Et là, c'est quand même avec des chorégraphies avec de la musique. L'artiste s'appelle Lambert Vadraud.
Et c'est une seule personne qui fait des chorégraphies.
Une seule personne fait les chorégraphies et c'est sa femme, Chantal Vadraud, qui fait la musique. Ils sont tous les deux originaires de l'Inde, du Sud, et ils vivent à Paris.
Et alors ça, vous avez dit que c'était fin juillet, hein ?
Le 26 juillet à 18h30.
On passe au mois d'août ?
Pour le mois d'août, le 15 août, on a à 18h30 un concert qui s'appelle « Dans les chapelles d'Italie au XVIIe siècle, à la découverte du cornet à bouquin ». Donc encore des instruments que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, puisque ça sera un concert de musique renaissance avec cornet à bouquin, luth et théorbe et viol de gambe.
Vous savez ce que c'est que le cornet à bouquin ?
Oui, tout à
fait. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
C'est un instrument très ancien qui a la forme d'une corne.
Bon, alors on va inviter les auditeurs à aller regarder sur Internet. Très probablement, ils vont trouver des photos. Ce que je vais m'empresser de faire.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça, c'était début août. Hein, rappelez à chaque fois.
Le 15 août.
Le 15
c'est
août.
Le 15 août à 18h30. Donc, c'est un concert Renaissance, avant le baroque. Et puis, le 26 août à 18h, donc là, l'heure change, puisque après le 15 août, les jours sont déjà plus courts, nous avons un autre concert avec quelqu'un de très connu dans le Diwa, puisque c'est avec Monique Sirène voilà, et
des
son
amis
frère
du temple.
Jean-Michel Denis.
Voilà, des amis, voilà. Pardon, des amis de l'orgue de la cathédrale et
voilà,
du temple.
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, tous les ans, Monique Sirène et son frère, Jean-Michel Denis, nous donnent un concert qui est remarquable. Voilà. Donc là, cette année, c'est romance, méditation et danse à travers l'Europe du 19e et 20e siècle. Violon et piano.
Et piano, très
et
bien.
Piano.
Monique est déjà passée quelques fois sur l'antenne et on sait qu'elle peut jouer un certain nombre d'instruments
voilà.
à clavier.
Mais là, on rentre dans l'ère romantique, donc c'est le piano.
Le piano qui arrive.
Voilà, c'est le piano qui arrive.
Tout à fait. Et un dernier concert peut-être encore ?
Alors un dernier concert, mais là qui est organisé par les Amis des Arts et du Musée, mais qui se passe quand même à Valcroissant, c'est le 2 septembre. Et là, c'est encore aussi avec quelqu'un du pays, puisque c'est avec Catherine Bernardini, soprano, qui nous chantera des airs et des duos d'opéra célèbres.
Où peut-on trouver ce programme ?
Ce programme, vous pouvez le trouver dans les offices du tourisme, dans les magasins, puisque beaucoup de flyers ont été distribués dans les magasins, sur notre site internet, puisque nous avons un site internet, www.abbayedevalcroissant.eu.
Abbaye de Valcroissant, tout attaché. Hein.
Tout attaché, .eu, Europe.
Juste pour revenir un petit peu sur la vie associative des Amis de Valcroissant, cette association est ouverte au public. Comment peut-on y adhérer ? Est-ce que vous êtes en recherche peut-être de bénévoles, ce genre de choses ?
Bien sûr que nous sommes en recherche de bénévoles. Tout le monde, tous les gens sont les bienvenus. Vous venez nous écouter nos concerts et à ce moment-là, nous pouvons vous donner des cartes d'adhésion. Il faut savoir aussi, alors là c'est dans un autre domaine, que nous organisons des visites guidées tout l'été. Donc en juillet, c'est 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 17h. Et c'est Rémi Legault qui est le guide de...
Voilà, là pour visiter la structure vraiment.
Pour visiter l'abbaye elle-même, voilà, et pour vous raconter l'histoire de l'abbaye.
Et donc on a accès à des salles qui ne sont d'habitude pas ouvertes par exemple ?
Oui, par exemple, le haut de l'église qui est actuellement la grange, le transept, enfin voilà, donc toutes ces parties qui sont quand même difficilement ouvertes au public, puisque ce sont des parties utilisées pour l'agriculture, sont visitables à ce moment-là. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous téléphoner au 04 75 22 12 70. Mais plutôt aux heures de repas, parce que très souvent... Il n'y a personne au téléphone régulièrement. Quoi. L'association voudrait aussi rendre hommage à Micheline Robert, décédée récemment, qui a été quand même un pilier de l'association des Amis de Valcroissant, qui a été à l'initiative de tous nos projets et à la réalisation de nos projets.
Martine Legault, merci de nous avoir présenté les Amis de Valcroissant, l'abbaye de Valcroissant et puis surtout l'activité de concert de cet été. Et puis, on va inviter les auditeurs, évidemment, à se rendre sur votre site internet pour un rappel des programmes et puis faire leur choix.
Merci.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.